CJSO 101.7 avec Luc Denoncourt. À deux, c'est mieux.
Bon vendredi tout le monde, bienvenue à deux, c'est mieux en direct de la Bouffetify. Mon invité, Gilles Valiquette, bonjour.
Hey, bonjour Luc.
Ça va bien?
Très bien, très bien.
Nouvel album, en fait, un album du passé qui revient, disons
oui.
Ça comme ça.
Oui, c'est vrai. Comme dit le film, un retour au futur.
Et au départ, Chanson pour un café, ça devait pas être un album, c'était des maquettes.
Non, ben écoute, pour faire une longue histoire courte, quand j'ai commencé, moi, professionnellement dans le métier, j'étais ce qu'on appelle un guitariste accompagnateur. Puis j'ai eu le privilège de travailler avec Richard et Marie-Claire Séguin. La première session professionnelle que j'ai faite, on enregistrait la chanson « Le train du Nord ».
Quand même. Quand même. Ça part fort.
Puis ensuite de ça, j'ai accompagné Jacques Michel. Puis lui, la première session d'enregistrement qu'on a faite ensemble, c'était chacun son refrain. Alors, de fil en aiguille, Jacques s'est aperçu qu'à temps perdu, je faisais des chansons, c'est qu'il m'a proposé de collaborer à faire des chansons avec lui. Alors là, on a commencé à voyager ensemble en tournée, puis on s'est trouvé un peu de temps là, pour travailler ensemble. Puis la finalité de tout ça, c'est que j'ai eu deux collaborations avec Jacques sur son album « Pas besoin de frapper pour entrer ». Album sur lequel je jouais également. Puis tout de suite après cet album-là, ce sont les Séguins qui ont fait leur premier album. Puis Marie-Claire a choisi une de mes chansons, « Tout est mieux là-haut » sur cet album-là. Alors là, je me suis dit, hey, peut-être qu'il y aurait d'autres mondes intéressés
à mes
compositions. Ben oui. Ça fait que je me suis loué deux soirs en studio, puis j'ai enregistré seul à la guitare en fait une vingtaine de chansons, mais disons 18 qui sont présentables. Puis avec l'idée là, de les faire entendre à des artistes ou des producteurs ou des réalisateurs. Puis mon ami René Letarte, qui est un ex-Bel Canto, là, pour ceux qui s'en souviennent. Là, vous venez de trahir votre âge, par exemple. Mais à un moment donné, il est en train de m'aider, puis il me dit, « Sais-tu quoi, Gilles, tu devrais lancer ça sur le marché, tu devrais sortir un disque. » Il dit, « Je connais du monde, moi, dans les maisons de disques. » Finalement, il a été chercher trois offres. J'avais trois offres pour ça. Bah. Alors, lui et moi, on retourne en studio. Puis on a mis ce que j'appelle un peu de sel et de poivre sur les enregistrements, un peu d'harmonie vocale ici, un peu de percussion là, un peu d'effet sonore peut-être. Puis, c'est devenu mon premier album, « Chanson pour un café ». Puis en fait, un début de carrière, j'ai eu la chanson « Quelle belle journée » qui a bien roulé là, à cette époque-là. Mais la raison pour laquelle je raconte ça, c'est que dans ma tête, à moi, là, quand j'ai enregistré ces chansons-là, c'était comme mettre une bouteille à la mer, en espérant que quelqu'un la trouve en quelque part et fasse quelque chose avec ça. Finalement, c'est moi qui, 50 ans plus tard, trouve la bouteille. Puis là, je deviens l'interprète de qui j'étais quand j'avais 20 ans. Alors, c'est vraiment hors de l'ordinaire, parce qu'habituellement, quand on fait une célébration d'album 50 ans, on fait quoi? Une remasterisation pour améliorer la qualité, ou peut-être un disque hommage avec plusieurs chanteurs, peut-être des duos, peut-être. Mais là, ça, c'est vraiment autre chose.
Mais l'idée de le refaire, c'est pas votre idée. C'est la cordonnerie qui vous propose ça.
Quand les gens de la cordonnerie, ça, c'est une maison de production, pour ceux qui nous écoutent. C'est eux qui sont derrière les carrières de Luc de la Rochelière et Marie-Denise Pelletier. Alors, oui, eux autres sont venus me voir il y a un certain temps en me disant « Chanson pour un café, c'est un album important, ça. On devrait souligner ça. » Alors, l'histoire que je viens de vous raconter, je leur ai raconté à eux. Puis là, ben, de là est venue l'idée, là, de comment on va aborder ça? Ben, pourquoi pas revisiter le disque, puisque dans ma tête, on n'a jamais fait un album de ça.
Est-ce que c'est un privilège, ça, de pouvoir retoucher à ces chansons 50 ans plus tard, puis de les faire avec 50 ans d'expérience aussi?
Ouais, ouais. Ben, je ne suis pas sûr que c'est un privilège, parce que ce ne sont pas tous les albums qui se prêteraient à
non,
ça.
Non, c'est sûr.
Certainement, j'en connais pas un autre des miens, mais dans ce cas-là, à cause de comment tout ça a évolué, il pouvait y avoir un certain sens. Moi, ce que j'avais peur, c'est que, parce que ça faisait des années là, que je n'avais pas réentendu ces chansons-là, j'avais peur que ça n'avait plus rapport. Il ne faut pas oublier, j'avais 19-20 ans quand j'ai écrit ça. Puis les chansons étaient faites par instinct aussi. Là, aujourd'hui, disons, j'ai mes méthodes, disons, j'ai une approche artisanale qui est beaucoup plus concise puis plus précise. Ça fait qu'en quelque part, je n'étais pas sûr que ces chansons-là avaient survécu assez bien. T'sais. Mais finalement, c'est après toutes ces années que tu arrives, tu te dis, ah, ben, peut-être que c'était pas si pire que ça.
C'est Marc Pérusse qui a réalisé l'album. Ouais. Pourquoi Marc? Évidemment, on a parlé de la maison de disques de Luc de la Rochelière. C'est un ami à Luc. Il a travaillé sur les disques de Luc.
Voilà, Marc Pérusse est partie prenante de la maison de production. Puis Marc était en fait un jeune guitariste quand Chanson pour un café a été lancé au début. Puis il me racontait comment cet album-là l'avait influencé lui et ses amis à l'école. Il me dit que lui puis ses copains de classe, là, ils se faufilaient dans les toilettes de leur école secondaire pour apprendre ces chansons-là. Puis il trouvait que ça sonnait mieux là, avec l'écho de la place.
Qu'il y a plein d'amis qui sont venus s'amuser.
Oui, c'est vrai. Ben, tu sais, moi, j'ai appris il y a longtemps que le succès dans notre métier en est un d'équipe. Alors, j'ai toujours eu des gens pour me donner un coup de main, de près ou de loin. Puis, refaire Chanson pour un café, c'est aussi l'occasion de comment dire, convertir ça à un genre de conventum.
Oui.
Alors, ça, c'est un des bons côtés du métier, c'est que moi, avant d'être un exécutant, je suis quelqu'un qui aime la musique. Puis, le bon côté, c'est que à force de se faufiler dans le métier, des fois, on n'en vient qu'à rencontrer les gens qu'on admire. Puis, pour mettre la cerise sur le sundae, c'est qu'il y en a parmi ces gens-là qui deviennent des bons amis avec le temps. Alors, tu as raison, retour à Chanson pour un café, on retrouve Jacques Michel, là, qu'on vient d'entendre dans la chanson, mais Richard et Marie-Claire Séguin sont là.
Marie-Claire qui fait plus de disques.
Marie, tu as absolument raison. Alors, elle a bien voulu essayer, voir, puis finalement, sa prestation est vraiment, là, je dirais, charmante, exceptionnelle et très touchante, je dirais. Mais il y a aussi Patrick Normand qui est là. J'ai réalisé 3 des derniers albums de Patrick Normand. C'est qu'on est devenus des bons amis. Puis il y a Daniel Lavoie qui, ben justement, sur la pièce qu'on vient d'entendre, là, le piano qu'on entendait, ça, c'était Daniel Lavoie. Qui d'autre?
Il y a Louis Valois.
Louis Valois et Monique Faudeux.
D'Harmonium.
Oui, qui faisait partie d'Harmonium. Puis là, j'en oublie.
François Pérusse, Normand Brathwaite.
Normand Brathwaite, François Pérusse, oui. Comme je dis dans la pochette, là, on a joué ensemble, mais on a ri pas mal aussi.
Et Louis Valiquette.
Louis Valiquette, mon fils, mais Dominique Valiquette, ma fille, et ma tendre moitié, là, ma femme Viviane. Alors, c'est une affaire de famille, c'est une affaire d'amis. Puis, tu sais, c'est un petit peu dommage quand un disque sort, parce que ça veut dire que toute cette expérience-là se termine. Mais il faut apprendre que le bonheur dans notre métier sont quand les choses sont en devenir. Alors c'est vraiment... je ne garde que de beaux souvenirs que de ce projet-là de retour à Chanson pour un café.
C'était comment de le faire en famille? Louis fait de la musique dans la vie, mais pas votre fille, si je ne me trompe pas.
Ben, ma fille est architecte au quotidien, mais elle a toujours eu une fibre artistique. Elle a appris le piano. En fait, elle travaille avec une chorale de Saint-Jean-sur-Richelieu qui s'appelle Amalgame.
OK.
Puis elle dirige, puis fait des...
OK, donc elle est dans la musique en loisir.
Voilà, on a tous ça dans notre ADN, dans la famille. Alors, on n'est jamais trop loin de ça. Moi, je suis peut-être le seul qui s'est risqué à essayer de gagner ma vie avec ça. C'est là qu'est l'exception, dans le fond.
Chanson pour un café, ça avait très bien marché. 50 000 exemplaires vendus.
Comme je te dis, c'était un début de carrière pour moi.
Ça partait fort?
ça partait bien, c'est sûr. Ce qui m'a aidé, entre autres, c'est que les gens se souviennent peut-être pas, mais quand Chanson pour un café a été lancée en 73, c'était le début des stations FM au Québec. Il y en avait à Montréal, il y en avait à Québec, il y en avait peut-être pas ailleurs, mais à cette époque-là, les stations FM se faisaient un devoir de ne pas faire tourner ce que les radios commerciales AM faisaient jouer, puis même je dirais qu'ils se faisaient un devoir de ne pas faire jouer ce que l'autre station FM faisait jouer. Alors il y avait une place pour les chansons de Gilles Valiquette dans cette mosaïque radiophonique-là. Puis ça m'a donné un bon coup de main. Puis j'en profite pour remercier les gens d'époque là, dans ces stations-là. Ils m'ont donné un bon coup de main, c'est bien apprécié.
Ça a été une grosse année, 73, parce qu'il y a eu Chanson pour un café, mais ouais. Dernier arrêt est sorti ouais, deuxième, en 73. Le deuxième arrêt ouais, est sorti ouais, en 73 ouais. aussi, avec ouais. Je suis cool.
Ouais. Ben, moi, le contrat de disque que j'avais disait qu'il fallait que je fournisse un album par année. Puis moi, je me trouvais paresseux parce que dans les années 60...
On sort 3 ans, c'est-à-dire.
Mes groupes préférés, ils lançaient des fois 2, 3, puis 4 albums par année. Ça fait qu'un album, waouh, il n'y a rien là. Ça fait que c'est sûr qu'en 73, au printemps, j'ai lancé Chanson pour un café et à l'automne, c'est le deuxième arrêt. Mais il faut dire qu'entre les deux, j'ai mentionné que, disons, au niveau des stations FM, ça allait bien. Mais ma maison de disques me disait, si tu veux vraiment puncher, si tu veux vraiment avoir un gros succès, ça te prend un succès 45 tours là, pour les radios AM. Puis là, en jeune fanfaron, j'étais, wow, vous voulez un hit? Moi, vous en faire un hit. Ça a donné Je suis cool.
Pas pire quand même. Et en plus, c'est ça que vous dites dans la toune.
Ouais, ouais, ben, c'est, écoute.
Vous parlez d'un hit dans la chanson.
Écoute, c'est drôle parce que, tu sais, des fois, il y a des conférences, des symposiums... Qui parle aux jeunes qui se lancent dans le métier, puis là, en quelque part, je suis supposé donner des conseils sur comment commencer, mais je ne conseillerais jamais d'écrire une chanson comme Je suis cool pour commencer.
Avant la carrière, il y avait le fan de musique.
Ouais, ouais.
Vous êtes même allé à Woodstock, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Alors, j'ai 17 ans.
Quand j'étais à Woodstock, oui.
Est-ce que ça teinte le musicien, ça, de voir ça? C'est... Évidemment, il y avait toute la base qui se passait dans la foule, mais il y avait tout ce qui se passait sur la scène qui était mythique. Ben,
c'est vrai, mais je te dirais que c'est la suite logique. Parce que moi, à 12 ans, c'est là que, à quelque part, là, j'ai comme on dit en bon québécois, j'ai pogné la piqûre là, quand j'ai vu les Beatles. Puis la musique pop, pour moi, à partir de là, c'est quasiment comme une religion.
Okay.
Alors, tu sais, je peux quasiment te dire, là, quel mois, quelle année, tel titre est sorti. Ce qui est bien aussi, en tout cas, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a plusieurs de ces chansons-là, quand j'étais plus jeune, c'était des nouveautés. Il fallait choisir lesquelles on aimait là-dedans. Puis aujourd'hui, on dit que ce sont des classiques.
Ben oui.
Fait que, c'est le fun d'avoir raison parfois. puis il y a ces nouveaux artistes-là qui arrivaient dans les années 60. Il y en a certains là-dedans qu'on appelle aujourd'hui des légendes vivantes. Fait que, tout ça pour dire c'est que c'était, comme je disais, c'est quasiment religieux pour moi. Puis là, ben, j'ai suivi tout le développement dans ce domaine-là. Puis rendu en 69... c'était l'époque des festivals pop. Puis moi et mes connaissances, on voulait tous assister à un de ces festivals-là. Puis je me souviens, à l'été 69, il y en avait plusieurs, dont un à Atlantic City 2 semaines auparavant.
Okay.
Mais on a tous choisi le même à Woodstock à cause de la liste des artistes.
Ah oui.
Jimi Hendrix était censé être là, puis Jefferson Airplane, puis Creedence Clearwater, puis tu vois, là, tous les artistes qu'on admirait étaient là. Ça fait qu'on a choisi d'aller là. Puis moi, avec 16 de mes jeunes amis, on s'est loué un camion Ryder jaune.
Okay.
On a lancé nos sacs de couchage là-dedans. Puis on est descendu aux États-Unis, là, à Woodstock. Puis la première affaire qu'on a remarqué, c'est qu'on n'était pas les seuls à avoir eu cette idée-là. Parce que,
non!
Le chemin pour se rendre à Woodstock, là, il y a juste deux voies. Une voie dans chaque sens.
Ouais.
Ben, quand nous autres, on arrive à 7 heures du matin, il y a déjà 4 autos en parallèle, l'une à côté de l'autre, qui vont tous dans une direction. Quand on voulait manger, on trouvait un restaurant sur le bord de la route, on allait là, il n'y avait plus rien à manger à part les biscuits soda là, qui traînent sur la table. Puis là, un petit peu plus loin, on se disait, faudrait bien mettre de l'essence dans le camion. Là, on arrivait à la station d'essence. Plus d'essence. Ça fait que là, on était un petit peu confrontés en face d'un problème parce que il y avait du monde qui s'était organisé pour briser les barrières. Ça fait qu'on pouvait juste marcher puis se rendre sur le bord de la Seine. Mais là, le problème, c'est que si on laissait notre camion, on ne sait pas trop...
Ça, on va le retrouver.
Ça arrivé. Ouais. Ça fait que finalement, on n'a pas assisté comme tel au spectacle. L'année qui a suivi, là, l'année de Woodstock, on a lancé un album, hein, un album triple. sais, tu ouvres la pochette, là, puis là, tu
c'est la foule,
il y a une photo prise de la scène, puis là, tu vois du monde là, jusqu'à l'horizon. Alors, la blague, dans mes connaissances, c'était nous autres, juste en arrière.
L'autre bord de photo.
Mais moi, je vous dirais que même les gens qui étaient là, ils n'ont pas dû entendre grand-chose parce qu'on n'avait pas à cette époque-là les systèmes de son qu'on a aujourd'hui. Voilà. Ça fait que tout devait se passer là, au loin. Là. Alors, tant mieux qu'il y a eu un film parce que
ça nous a permis de le voir.
Ça a appris un peu ce qui s'est passé. Mais ça fait rien, j'étais là. Tu sais, des fois, il y a des films là, style science-fiction avec des invasions de sauterelles, tout ça. Ben moi, j'ai pas vécu les invasions de sauterelles, mais j'ai vécu les invasions de hippies à Woodstock. Le monde se cachait dans leur maison puis regardait à travers le rideau. Il y avait tellement peur de ce qui était pour arriver. Mais il faut dire qu'il faisait froid le soir aussi. C'est qu'il y a des gens là, qui ont se sont appropriés les clôtures des gens. Ils ont fait brûler ça. Les tables de pique-nique, elle m'a dit. Faut en rire.
Oui. Ben, l'album-là, mais qui est en format spécial, on l'a vu tout à l'heure, vous me l'avez apporté, en vinyle, deux CD.
Oui.
Comment c'est né l'idée de faire un gros projet comme ça? Parce qu'on le sait maintenant dans l'industrie du disque, ça coûte des sous, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que c'est venu naturellement que ça allait être comme ça?
Bien, comme je disais plus tôt, moi je suis un amateur de musique avant d'en faire. Ça fait que moi, j'en achète des disques. Oui. J'en achète toujours des disques. Alors, pour moi, un album, c'est un objet précieux. Mm-hmm. Je trouve ça dommage qu'il y en a qui aient traité ça au fil des ans comme un genre de prêt-à-porter. Là, t'sais. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis, moi, je dis que si nous, les artistes, puis ceux qui produisent ça, si nous autres, on ne valorise pas le entre guillemets produit qu'on fait, je me demande bien qui dans le grand public va le valoriser. Alors, moi je me dis qu'est-ce que je souhaiterais voir accompagnant cet album-là? Alors, effectivement, normalement, quand on sort un album, on aurait un CD, ça c'est classique. Alors, mais de plus en plus, je sais pas si les gens qui nous écoutent savent ça, mais c'est vrai que le domaine du disque, ça va pas très bien par les temps qui courent. Mais il y a un secteur qui prend de l'expansion, qui va de mieux en mieux depuis quelques années, puis c'est la vente des disques vinyles.
Oui.
On dirait que les gens commencent à redécouvrir ça. Moi, je peux comprendre ça parce que pour moi, un vrai album, c'est dans un format 12 par 12. Puis, tu sais, c'est la normalité des choses. Alors là, on était un petit peu confrontés. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on achète le CD ou on achète la version vinyle? Alors moi, j'ai réglé le cas. J'ai mis les deux. Alors, quand on achète Retour à Chanson pour un café, on trouve ces deux-là. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a un livre de 24... Il y a un livret de 24 pages là-dedans où je raconte le contexte dans lequel l'album original s'est fait. Puis je raconte là-dedans, comme je te disais plus tôt, que j'avais fait des maquettes, puis finalement les maquettes ont évolué en un album. Alors, j'ai trouvé que ce serait peut-être une bonne occasion d'insérer les fameuses maquettes, les fameuses 18 chansons là, que j'avais faites seul à la guitare. Alors, on les a mis sur un autre CD. C'est que dans ma tête à moi, c'est comme avoir avec cet album-là, on peut même l'appeler un coffret, si vous voulez, les deux, tu sais, c'est comme des genres d'appui-livre, on veut, là, mais les deux côtés d'un arc-en-ciel. Autrement dit, quand l'arc-en-ciel part, puis quand il aboutit, finalement, là, de l'autre côté. C'est que pour moi, ça faisait un paysage complet. Puis, disons que, quoi, on approche de la période des fêtes. Hein, il va falloir faire nos listes, là, bientôt. Alors, moi, je sais pas, je me suis dit que peut-être quelqu'un écrirait sur la liste le nouvel album de Gilles Valiquette.
C'est une belle idée.
Hein?
tout ça est possible aussi parce que au départ, quand vous avez négocié vos premiers contrats de disques, vous avez demeuré propriétaire des bandes maîtresses. Et ça, c'est Jacques Michel qui vous a donné un masterclass pour ça, non?
Oui, je dois beaucoup à Jacques Michel, je dois vous avouer, parce que ça vient du moment où j'ai mentionné là, qu'on cherchait des temps, si vous voulez, des moments pour écrire des chansons ensemble. Alors j'ai commencé à voyager avec Jacques, puis quand on était tous les deux en tournée dans la même auto, ben Jacques, il m'a parlé de comment le métier fonctionne, il m'a parlé de ce que c'était que les droits d'auteur, il m'a parlé des contrats, qui fait quoi dans le métier. C'est ce que j'ai appelé un masterclass, parce que Il faut comprendre que habituellement les gens qui se lancent dans le domaine artistique, sur la scène ou derrière, c'est parce qu'ils veulent pas vraiment s'insérer dans les secteurs organisés de la société. Alors, par instinct, ils veulent pas entendre parler d'éducation, ils veulent pas entendre parler de contrat, ils veulent pas entendre parler de droit, et ils sont au-dessus de ça, eux autres. Alors, c'est dommage parce que souvent, les contrats les plus importants que les artistes signent, c'est quand ils ont entre 18 et 25 ans. Alors moi, j'ai comme un peu contourné cette problématique-là parce que Jacques, il était très généreux de ses connaissances. Alors effectivement, quand on est venu au moment de me montrer des contrats de disques tout ça, j'en savais un peu plus que la moyenne, puis j'ai été capable là de me débrouiller avec ça. Puis c'est là qu'avec le temps, j'ai appris que la grande majorité des artistes ne sont pas propriétaires de leurs propres chansons ou de leurs propres disques. En quelque part, il y a quelque chose de très triste et même dramatique à ce niveau-là. Fait que je me considère bien chanceux.
Est-ce que c'est une chance d'avoir commencé dans la musique dans cette période-là, les années 70? On a parlé des Séguin, on a parlé de Jacques Michel, vous avez travaillé avec Plume qui commençait, en fait, ouais. son premier disque. J'imagine qu'il y a une chance là-dedans d'avoir travaillé avec tout ce monde-là puis d'avoir commencé à cette époque-là où c'était foisonnant. Ouais, la musique en français?
Absolument. Surtout aujourd'hui, quand on y pense, avec les années de pandémie qu'on a eues, moi, c'est, je sais que ça a démoralisé bien des gens, mais moi, je suis sorti de ce moment-là de pandémie très reconnaissant parce que je trouve que j'ai appris à apprivoiser la musique dans les années 60, peut-être la plus belle décennie où on pouvait faire ça. Puis je suis devenu un exécutant dans les années 70 au Québec, peut-être le plus beau moment où on pouvait faire ça. Alors, effectivement, ce sont des trucs qui ne s'achètent pas, ça. Puis, j'étais chanceux. Dans le métier, oui, ça prend du talent. Oui, il faut travailler fort. Mais il faut aussi être chanceux. Parce qu'on ne sait pas, là, ce que demain va nous amener. Alors, disons que j'étais très chanceux. Je l'apprécie beaucoup.
Et il y a des artistes de grand talent qu'on n'entendra jamais.
C'est absolument. Absolument.
50 ans de carrière, c'est un beau cadeau, ça?
Oui.
C'est une histoire d'amour avec le public, assurément.
Oui, c'est vrai.
Il y a un bout qui est là. C'est le public qui fait qu'on est.
Mais moi, je compte pas. Hein. Moi, dans ma tête, j'ai toujours 25 ans.
C'est bien parfait.
Puis je suis toujours un éternel débutant. Puis en fait, tu sais, je m'attends tout le temps, toujours à ce que quelqu'un me dise, « OK, Gilles, ça va faire. Là, c'est assez bon. Retourne chez vous. » Ça fait que, effectivement, tu sais, c'est... Puis en quelque part, c'est anti-commercial. Écoute, je me souviens, il y a longtemps de ça... Je lisais un article écrit par un Américain qui parlait là, d'un artiste canadien-anglais, puis qui présentait son premier album aux États-Unis. Puis son propos était que cet artiste-là est vraiment très bon, il est excellent, on aime beaucoup, mais en quelque part, il a passé 25 ans, ça fait que je pense pas que ses chances de coller chez nous là, sont très, très bonnes. Alors moi, dans ma tête, passé 25 ans, là, tu ne vaux pas trop cher dans le domaine de la chanson. Ça fait que le fait que je suis encore là, c'est un peu surprenant pour moi.
Tacle là.
Je vais être là, moi, le 27.
Oui. Vous avez acheté vos billets, il en reste.
Je suis tout équipé, moi.
Est-ce que ce sera essentiellement cet album-là ou ce sera un tour d'horizon de toute la carrière?
Normalement, on va faire les chansons que on va faire mes chansons que les gens veulent entendre.
Oui, bien sûr.
Soyez pas inquiets là-dessus, c'est sûr. Puis à chaque spectacle, je fais quelque chose qui est un petit peu hors de l'ordinaire, OK? Même moi, des fois, je suis surpris. Mais c'est sûr qu'on va profiter de l'occasion pour célébrer le fameux album « Chansons pour un café ». Alors, il va y avoir une bonne poignée de ces chansons-là. Là. Mais ce que j'allais dire aussi, c'est que quand je dis qu'on va avoir un spectacle intéressant puis plaisant aussi à tous les niveaux, juste pour vous donner un exemple, c'est sûr qu'on a entendu parler que notre Céline Dion nationale... Hein, elle était un petit peu là sur le carreau pour les temps. Alors, mais moi, j'ai hérité de son batteur. Alors, regardez, là, tous ceux qui vont acheter des billets, là, vous venez de sauver plusieurs centaines de dollars parce que vous n'aurez pas besoin d'aller voir le batteur.
À Las Vegas. Ben oui, il est à Sorel.
Oui, oui, puis vous ne serez pas pris dans à l'aéroport et tout ça. Vous savez comment que c'est. Ça fait qu'une raison de plus pour venir voir Gilles.
Est-ce que c'est un défi de choisir les chansons après toutes ces années-là? Évidemment, on le sait, il y a des incontournables. On n'a pas le choix de les faire, mais après, il faut se gâter aussi comme artiste, comme auteur-compositeur. Est-ce que ça devient difficile de dire qu'est-ce que je mets dans le show?
Ben c'est sûr qu'il y en a trop de chansons, ça, c'est sûr. Mais puis l'autre chose que je dirais aussi, c'est qu'au fil des ans, je passe pas mes journées à chanter mes succès.
Non.
Mais moi, ce qui me motive beaucoup, c'est justement quand je fais les chansons plus connues que d'autres, puis tu sais, j'amorce la chanson sur scène, puis là, je vois les visages s'allumer devant moi. Ça me donne l'énergie de faire ces chansons-là. Puis le reste s'enchaîne parce que à partir de ces chansons-là, j'essaie toujours d'avoir, disons, une logique lyrique à travers le déroulement du spectacle. C'est comme si c'était une histoire que je m'inventais. C'est pas important que les gens connaissent pas cette histoire-là, mais c'est parce que si moi j'ai une logique dans tout ça au départ, je suis pratiquement sûr que les gens qui nous écoutent, ils vont convertir leur logique à eux autres là-dedans. C'est qu'il va y en avoir une à la fin. Puis tu sais, j'espère toujours que à la fin du spectacle, les gens disent ah. Moi, j'ai passé un beau moment ici. C'est pour ça, d'ailleurs, que le thème du spectacle, c'est « Je n'attends que ce moment ». Parce que c'est vrai que les gens qui achètent nos billets, souvent à l'avance, ont hâte que le spectacle arrive. Mais laissez-moi vous dire que ça marche des deux côtés, ça. Parce que moi, en tant qu'artiste, j'ai hâte d'être assis sur la scène puis faire mes chansons pour vous. Sinon, tout le reste n'a pas de sens.
M. Valiquette, on va inviter les gens à aller voir en spectacle à Sorel-Tracy le 27 octobre prochain, à se procurer l'album Retour à chanson pour un café.
Bien, merci, Luc.
Merci d'avoir été là aujourd'hui.
Oui, ça me fait plaisir.